Le gouvernement français souhaite étendre le couvre-feu par endroits. Il commencerait à 18h au lieu de 20h. Une reprise incontrôlée de l'épidémie de Covid-19 en janvier est probable à cause du surcroît de contamination provoqué par les fêtes de fin d'année, avertit le Conseil scientifique dans un avis qu'on vous détaille. Le président élu Joe Biden déplore le retard accumulé dans la campagne de vaccination aux États-Unis. Nous irons à New York. Les sénateurs argentins débattent en ce moment de la légalisation de l'avortement. La population comme la classe politique est très divisée. Le gouvernement propose d'étendre le couvre-feu. Il commencerait à 18 au lieu de 20 heures à partir de samedi dans une vingtaine de départements situés dans les régions les plus touchées par l'épidémie de Covid-19. Le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le département des Alpes-Maritimes inquiètent particulièrement les autorités sanitaires. Pour renforcer ces contraintes, le gouvernement s'appuie notamment sur la note d'alerte du Conseil scientifique remise le 22 décembre et qui vient d'être rendu public. Le Conseil craint une reprise incontrôlée de l'épidémie, Daniel Messager.
L'évolution des principaux indicateurs est préoccupante, écrit le Conseil scientifique, avec de fortes augmentations de taux d'incidence en PACA, plus 35%, Grand Est, Auvergne, Rhône-Alpes. Il y a un risque non nul d'une reprise incontrôlée de l'épidémie en janvier. Il conseille donc trois options. Un renforcement strict dès la deuxième semaine des congés. Nous y sommes. Ce n'est donc pas cette option de la note remise le 22 décembre qui a été retenue, mais la deuxième, une réponse adaptée au surcroît des contaminations de fin d'année, en réagissant début janvier. Ainsi, Olivier Véran a bien annoncé hier soir qu'un couvre-feu anticipé à 18h pourrait entrer en vigueur dès le 2 janvier dans les départements des régions les plus touchées. La troisième option envisageait d'attendre plus tard en fonction des hospitalisations à la fin du mois. La note du Conseil porte également sur le nouveau variant du virus. Il y a certes une augmentation du risque de transmission, mais il n'est à ce jour pas plus dangereux, sans risque de réinfection pour les personnes ayant déjà été malades, et le vaccin demeure efficace. Les tests peuvent le détecter, la recommandation étant de contrôler les voyageurs venant du Royaume-Uni.
L'une des solutions pour limiter la propagation du Covid, c'est la vaccination, mais certains regrettent le début très timide de la campagne de vaccination en France. Elle a commencé dimanche, c'est le temps de l'explication et de la pédagogie, le temps aussi de recueillir le consentement dans les EHPAD, a expliqué hier soir sur France 2 le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le scepticisme est très fort chez les Français face au vaccin et de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Des collectifs de citoyens luttent contre les anti-vax. C'est le cas des Vaxeuses, un groupe de 15 personnes sur Facebook qui passe du temps à déconstruire ce qu'on appelle les fake news. L'un de ses fondateurs se fait appeler Pierre, un nom d'emprunt qu'il préfère utiliser depuis qu'il a reçu des menaces de mort.
Beaucoup de gens sont sceptiques vis-à-vis de ce vaccin Covid parce que il circule beaucoup d'informations sur une éventuelle modification possible de nos gènes via ce vaccin, qui est un vaccin à ARN. Alors ce sont des mots compliqués qu'on n'entend pas souvent, qui peuvent faire peur. Et donc ça, c'est une information sur laquelle on va travailler. On va publier un article ou on va relayer des articles qui expliquent comment fonctionnent ces vaccins ARN, qui expliquent pourquoi un vaccin ARN ne peut pas modifier notre génome, et comment fonctionne cette vaccination en particulier, et pourquoi est-ce qu'on va juger cette information urgente? Ben simplement parce que on vit depuis un an dans une situation qui n'est agréable pour personne, que cette vaccination c'est la meilleure solution qu'on a pour en sortir rapidement, et donc propager des infos fausses concernant ce vaccin, oui, pour notre groupe, ça représente une urgence à traiter rapidement.
Témoignage recueilli par Maïwenn Bordron. Pendant ce temps, aux États-Unis, pays qui détient toujours le record du nombre de victimes, plus de 350 000 morts, le prochain président américain s'en prend à la politique sanitaire de son prédécesseur. À la veille du réveillon, le démocrate Joe Biden faisait le point hier sur la pandémie, Sébastien Paour.
Joe Biden remercie les chercheurs et les soignants, mais il prévient d'entrée, la situation va encore empirer avant de s'arranger, parce que la Maison-Blanche ne fait pas tout ce qu'il faut, selon lui, en matière de vaccins. Le plan de l'administration Trump pour la distribution des vaccins prend du retard, beaucoup de retard. Les efforts pour les distribuer et les administrer ne progressent pas comme ils devraient. Il y a quelques semaines, l'administration Trump a laissé entendre que 20 millions d'Américains pourraient être vaccinés. vaccinés d'ici la fin décembre. On est à quelques jours de la fin décembre et on n'en a vacciné que quelques millions. Un peu plus de 2 millions pour l'instant aux États-Unis. À ce rythme, dit Biden, il faudra des années et pas des mois pour vacciner tous les Américains. Mais il assure que c'est jouable, promet 100 millions d'injections sur les 100 premiers jours de sa présidence si le Congrès débloque des fonds, et regrette que l'actuel président ne fasse pas la promotion des vaccins. J'espère que le président va appeler clairement et sans ambiguïté tous les Américains à se faire vacciner quand ce sera leur tour. Joe Biden rappelle qu'il l'a fait, lui, devant les caméras, comme sa future vice-présidente, Kamala Harris, hier.
La correspondance à New York de Sébastien Paour. Il n'y a pas que la crise sanitaire qui fait la une de l'actualité en Argentine. Le débat sur la légalisation de l'avortement aussi. Les sénateurs sont en train d'en discuter et d'ici quelques heures, ils voteront pour déterminer si l'interruption volontaire de grossesse devient légale ou pas dans ce pays encore très catholique. En attendant la décision des Argentins, certains pour, certains contre, manifestent au pied du Congrès. Caroline Vic.
La place du Congrès est à l'image de la société, divisée en deux. Comme pour chaque débat, les bleus ciels se sont installés d'un côté et les verts de l'autre, tous organisant une veillée jusqu'au vote et entre les deux, barrières et police. Dans le camp des anti-IVG, les bleus, on peut voir un gigantesque embryon taché de peinture rouge et sur une scène se succèdent de chanteurs évangélistes et groupes de rock catholiques. Chez les verts, les pro-IVG, on danse devant des haut-parleurs, on se maquille, d'autres boivent du maté entre copines. Toutes et tous ont les yeux rivés sur les écrans géants installés un peu partout autour du Congrès et suivent le débat. Chaque sénateur expose ses idées. Les pressions des anti-avortements sont dénoncées par plusieurs législateurs. D'autres menacent de faire déclarer inconstitutionnel le texte s'il est approuvé. Il y a 2 ans, le Sénat avait rejeté le texte à 7 voix près. Cette fois, ce sera certainement encore plus serré, d'où la nervosité ambiante au Sénat et de part et d'autre de la place du Congrès.
Sur les 12 militants pro-démocratie hongkongais qui avaient été arrêtés cet été, 10 ont été condamnés aujourd'hui à des peines allant de 7 mois à 3 ans de prison. Ils avaient tenté de fuir Hong Kong en bateau vers Taïwan et étaient depuis détenus en Chine. L'Union européenne, comme les États-Unis, exigeait leur libération immédiate. L'Ocean Viking reprendra ses opérations de sauvetage dans une dizaine de jours. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée est en escale à Marseille. Il a été libéré il y a 10 jours du port italien où il était retenu officiellement pour des problèmes de sécurité. Ce navire sauve des migrants qui tentent la traversée sur des embarcations de fortune avec l'espoir de rejoindre l'Europe. Sophie Beau, la directrice de l'ONG, s'en réjouit, même si elle reste très inquiète sur le fond du problème.
Tous les navires humanitaires ont été bloqués cette année avec des prétextes administratifs qui tournent tous autour de la sécurité. Donc c'est très inquiétant puisque nous allons repartir, nous serons peut-être le seul bateau où il y en a peut-être un deuxième qui sera présent en mer. Mais c'est très insuffisant pour couvrir l'ensemble des besoins et ça ne permet pas de secourir toutes les vies qui sont en danger en mer. Donc nous sommes évidemment très inquiets. D'autant plus que sur le plan politique, l'année 2020 n'a pas du tout vu d'avancée sur ce que nous demandons depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a d'une part une flotte de sauvetage européenne, elle n'a toujours pas vu le jour cette flotte, et puis au moins que les États européens s'accordent sur un mécanisme automatique de répartition des naufragés, des personnes rescapées en mer Méditerranée quand elles sont secourues par un navire humanitaire ou un navire commercial, qu'elles puissent systématiquement être débarquées dans un lieu sûr. Or cela, ça n'existe toujours pas et ce sont les États comme l'Italie qui gèrent pratiquement seuls en première ligne ces débarquements. Ça pose des problèmes politiques et on voit justement que les autorités italiennes essayent de se prémunir de ces débarquements en inventant de nouveaux prétextes administratifs très régulièrement pour bloquer nos navires.
Sophie Beau avec Florence Turm. 739 victimes ont été décomptées à ce jour par SOS Méditerranée pour la seule année 2020, sans compter toutes les embarcations qui ont disparu sans laisser de traces. L'année 2020 est la plus chaude jamais enregistrée en France et le rafraîchissement des températures en fin d'année n'aura rien changé. La température moyenne sur l'ensemble du pays cette année était de 14 degrés, a annoncé Météo France. Nous y reviendrons plus en détail dans le journal de 7h sur France Culture. Météo France qui maintient aujourd'hui 4 départements en vigilance orange pour des risques de crue. Les Landes, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. Comptez au maximum cet après-midi 4 degrés à Metz, 5 à Amiens, 7 à Rennes et jusqu'à 10 degrés à Perpignan.